Bonjour. Merci pour la confiance, même si je me sens pas tout à fait à l'aise. À vrai dire, je suis un très mauvais orateur. Ça, je sais très bien. Alors, ça veut dire, si notre méditation, notre approche ensemble devient un peu ennuyeux, vous avez toujours le droit d'intervenir et on peut adapter, modifier le discours. J'avoue que j'ai beaucoup lutté et beaucoup hésité par rapport au sujet. Ce n'est qu'au fond, pour être honnête, la semaine passée, quand le père Bernard a demandé « Alors, finalement, c'est quoi ?» que j'ai décidé pour la Vierge. Parce que, pensant à Noël, la fête de Noël, c'est quand même la fête de la paix. Paix intérieure. Extérieure aussi, évidemment. Une paix dont chacun de nous a tellement besoin, et surtout notre société, mais qui semble tellement difficile à acquérir. Parce que, en soi, elle est très simple. Si simple que c'est difficile. Pour approfondir la paix intérieure, nous avons un magnifique texte dans la Bible. C'est la narration de Caïn et Abel. Mais ça nous demande au moins 10 sessions au lieu de 2. C'est pas possible. Un autre moyen pour arriver à la paix intérieure, c'est la conversion des sens. Mais nous en avons 5 voire 7 sens. Il faut 7 sessions. Alors je me laisse quand même séduire par la première idée qui a surgi le jour où Père Bernard a demandé d'assurer la méditation d'aujourd'hui. C'est le jour où vous avez tous visité l'atelier d'encens. Et c'était le jour aussi où la sœur Barbara a nous enseigner un peu sur la figure de la Vierge et la façon qu'elle vit sa liberté. Pour moi, c'était très, très instructif. Et j'ai pensé, peut-être, il faut reprendre ce fil. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir des fils partout. Voilà, c'est la raison. J'ai commencé à écrire quelques idées à partir de mardi passé, et je vais vous redonner le texte ce soir. Ça veut dire que si les choses ne deviennent pas claires, vous pouvez toujours reprendre pour remuer certaines choses. En cette période de l'année où nous nous préparons à la fête de Noël, où nous attendons la révélation du soleil de justice, le Christ, on dit de lui, qui était, qui est et qui sera. Il est intéressant de réfléchir, selon moi, à la personne de Marie en tant que instrument, en tant que prophétesse. Entre parenthèses, je trouve, dans notre tradition, on ne trouve jamais ou archi rarement la figure de Marie comme la prophétesse par excellence. À travers le Christ lui-même, la lumière, verra la lumière. Et pour guider notre réflexion, j'aimerais suivre le mystère de la vie de la Mère de Dieu, tel il est nous présenté dans les fêtes liturgiques qui entourent Noël, à savoir la nativité de la Mère de Dieu, fêtée le 8 septembre, la présentation de la Mère de Dieu au Temple le 21 novembre et l'Annonciation à la Mère de Dieu le 25 mars. Pourquoi ai-je choisi le billet de la liturgie? Parce que je ne vous connais pas. La seule chose que je connais de vous, c'est votre présence qualitative, authentique aux liturgies de dimanche. Et ça m'a assuré de surfer ce billet. J'aimerais lire, excusez-moi, nous sommes formés à travers la liturgie byzantine, que de temps en temps, je m'épuise Je m'appuie là-dessus, mais nous vivions pas un temps où nous devons avoir cette discipline de voir à travers les institutions confessionnelles. Je suis très sensible à ça. Lorsqu'on a les réunions œcuméniques, etc., on entend encore si souvent « Oui, mais nous, orthodoxes, hein, et nous, catholiques, oui, mais nous, les Gaulois, hein. » Écoutez, n'oublions jamais que le Christ a dit « De ces pierres-là, Dieu peut en faire des fils d'Abraham. » Quand les pharisiens disaient « Mais nous sommes les fils d'Abraham, les vrais, non ?» À la limite, Dieu s'en fiche, selon le Christ. Et en plus, plus loin, il va dire, là où il y a deux se réunissent, réunis en mon nom, je serai présent. Je pense que cet enseignement-là nous indique qu'il faut absolument faire attention. Non. D'ailleurs, toutes les églises, toutes les traditions ne sont que complémentaires. Non. Je vais vous lire le Tropaire de Noël. Ta naissance, ô Christ notre Dieu, a fait resplendir dans le monde la lumière de l'intelligence. Ceux qui servaient les astres et les étoiles sont instruits par les astres et les étoiles de t'adorer, ô soleil de justice, et te contempler, Orient venant des hauteurs, Seigneur, gloire à toi. J'aimerais poser quelques questions comme introduction. Lorsque le père Bernard m'a demandé si je ne voulais pas donner une réflexion en ce mois de novembre en préparation de la fête de Noël, et surtout lorsque vous avez été si gentiment me laisser la liberté d'orienter le sujet à ma guise, je venais de lire un article sur l'impact commercial des périodes de congés officiels. Et j'en suis venu à la conclusion qu'en effet, Noël est peut-être la seule fête d'origine chrétienne encore célébrée à une si grande échelle dans la société. Les cercles commerciaux comptent apparemment sur un grand nombre de célébrations. Il va sans dire que la question se pose de savoir dans quelle mesure le mystère de Noël est encore fêté. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, même si je pense que ce serait très intéressant d'examiner de plus près le concept de célébrer. Qu'est-ce que c'est une célébration? Et nous pouvons poser la question: est-ce que notre société actuelle connaît-elle encore des vraies fêtes? Mais au mieux, là où Noël est encore réellement célébré, je me demande comment ça se passe. Comment est-elle vécue? Comment est vécue une veillée de Noël? Je vois beaucoup de programmes surorganisés. La célébration liturgique touche-t-elle vraiment ma chair et mon sang? Et dans quelle mesure l'histoire bizarre d'une vierge juive donnant naissance à un garçon peut-elle prétendre avoir un vrai sens? Dans quelle mesure le souvenir de cet événement unique de Marie donnant naissance à Jésus a-t-elle encore un effet sur moi? Réveille-t-il brièvement quelques étincelles de piété? Réveille-t-il les motivations endormies que me poussent à corriger mon orientation de vie, pour ainsi dire, souvent seulement au plan moral? Approfondit-elle ma vie mentale par des acrobaties spirituelles ou théologiques? Ce sont des questions que je me pose encore et encore, à moi-même, et à chaque fête d'ailleurs, mais surtout à Noël, qui reste ostensiblement l'une des fêtes les plus populaires. Mais une fois de plus, j'arrive toujours à la même conclusion, qui est au fond un problème universel de toutes nos églises. Quelle que soit la richesse de notre spiritualité, et quelle que soit la religion à laquelle nous adhérons dans la vie, sa profondeur, sa puissance transformatrice dépendra de l'image de l'homme que nous en tirons, de l'image de l'homme que nous vivons consciemment nous-mêmes de jour en jour. Et je suis convaincu qu'un des plus grands problèmes de nos traditions chrétiennes aujourd'hui se situe au niveau anthropologique. Dans ce sens, nous pouvons nous poser d'autres questions. Qu'est-ce que les églises chrétiennes disent sur l'homme? Quelle image de l'homme nos églises reflètent-elles pour l'homme d'aujourd'hui? Que disent nos textes sacrés sur l'homme? Et qu'est-ce que nous disons qu'est l'homme? Bien sûr, c'est une question de tous les temps, mais plus que jamais une question urgente dans notre société actuelle, de plus en plus imprégnée par les tendances transhumanistes dans la science et les philosophies. Quel défi! C'est une question très complexe que nous n'avons pas à analyser ici aujourd'hui, heureusement. Mais nous pouvons poser encore une dernière question. Quelle image de l'homme nos liturgies profilent-elles? Et dans ce sillage, bien sûr, d'autres petites remarques peuvent se poser. Dans quelle mesure nos liturgies sont-elles encore vraiment des vraies liturgies? Dans quelle mesure notre religion est encore vraiment une vraie religion? Relegare signifie relier. Alors, qu'est-ce que notre religion relie encore? Et finalement, je veux retenir une question comme point de départ de nos réflexions aujourd'hui. Dans quelle mesure cette crèche de Bethléem a-t-elle encore un lien vital avec moi? L'homme du 21e siècle, dans une société qui, après avoir démoli des certitudes pluriséculaires, s'est maintenant lancée dans une gigantesque transmutation, me tendant ainsi un miroir inéluctable. Que suis-je en tant qu'être humain? Cette question est une question existentielle qui nous fait prendre conscience que plus que jamais, nous devons placer le sort de l'humanité dans une perspective eschatologique, parce que l'avenir de l'homme appelle notre responsabilité d'aujourd'hui. Autrement dit, nous devons retrouver une vision à long terme. La responsabilité de prendre au sérieux nos devoirs envers l'essence de la vie et l'existence humaine et planétaire, aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. C'est donc avant tout une question de conscience. Nous, qui essayons d'être chrétiens quand même quelque part, en acceptant l'invitation de la voix intérieure, en essayant de découvrir au plus profond de nous-mêmes le sens intérieur caché dans nos écritures sacrées et nos traditions. C'est ce que nous essayons, non? Je pense que c'est hautement temps de faire ce chemin intérieur, car sinon, je crains que le baromètre de notre christianisme ne prédise une chute bien plus importante. Pour conclure l'introduction, que dit notre tradition sur qui et ce qu'est l'homme? L'homme n'est-il pas né le 25 décembre? Car Pilate dit quand même « Ecce homo », voici l'homme. Il n'a pas dit « voici le Christ », il a dit « voici l'homme ». Mais avant cette naissance, qui a porté cet homme dans son ventre? Qui donc a donné naissance à cet être humain ? Un autre être humain, Marie. Cette personne que la tradition chrétienne orientale appelle la mère de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai quand même choisi aujourd'hui de méditer ensemble avec vous le mystère un peu de la mère de Dieu. Et cela déjà, comme déjà mentionné, en réfléchissant un instant sur les trois fêtes liturgiques. Quelle image de l'homme voyons-nous dans la figure de Marie? Et je commence avec la première fête, la nativité de la mère de Dieu. Entre parenthèses, j'espère que vous n'entendez pas dans mes propos une grande proclamation des vérités. Parce que selon moi, la vérité en tant que parole, en tant que dogme, n'existe pas. Il n'y a que la vie, chemin et vérité, dit le Christ lui-même. Et je crois qu'aussi, ma contribution ne veut pas être un enseignement, parce que je crois qu'il n'y a qu'une personne qui peut vous enseigner, c'est vous-même. Je ne peux que élaborer, bêcher la terre, afin que la terre prend un peu d'oxygène. La nativité de la Mère de Dieu, cette fête que nous célébrons le 8 septembre, nous offre en effet un clé pour ouvrir intérieurement le cycle entier de toutes les fêtes de l'année liturgique. Cela signifie que pour chacun de nous, cette fête signifie en quelque sorte une première porte d'entrée dans le mystère qu'est la vie. Cette fête nous donne un accès à ce parcours initiatique qui est ce mystérieux lien qui existe entre le Christ et sa mère. C'est le lien entre le Christ et sa mère qui nous offre un chemin initiatique. Et pour entrer dans ce mystère, nous pouvons nous inspirer de quelques paroles que le Christ prononce dans l'Évangile lu en cette fête. Ça vient de Luc 11. Je pense, ce n'est pas pris le texte, mais je pense que nous connaissons tout l'Évangile. D'ailleurs, entre parenthèses, ça m'a toujours frappé que la Bible, c'est quand même une bibliothèque gigantesque des textes. Et le rite byzantin, c'est bourré sans fin des masses de textes. Mais pour les grands fêtes mariales, c'est toujours le même Évangile. C'est comme il n'y a pas d'autre. C'est quand même très étonnant. Ça, c'est raison, selon moi. On connaît cet évangile, cette péricope, c'est quand une femme dit, hein, « Heureuse les mamelles qui ont laité le sein qui vous a porté. » Mais Christ est une figure, je trouve, pas seulement énigmatique, de temps en temps, il m'énerve, je l'avoue. Parce qu'il faut voir qu'il n'est pas toujours très sympathique dans ses réponses. Parce qu'il dit, sa réplique est « Heureux ceux qui écoutent plutôt la parole de Dieu et qui la gardent. » En effet, la voix d'une femme de la foule s'était élevée et avait publiquement loué la mère d'un si grand maître et éminent prophète comme Jésus. En criant « Heureuse les entrailles qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont nourri. » Et voilà, Jésus semble répondre qu'il y a apparemment un bonheur beaucoup plus grand que celui de Marie, sa mère. Un bonheur plus grand dont toute personne qui reste fidèle à la parole de Dieu ne retire pas moins de mérite. Un auditeur inattentif risquerait d'interpréter mal ces paroles de Jésus. J'ai fait ce chemin pendant des années, à chaque fête mariale, et j'entendais cet évangile, j'étais déçu. Imagine, c'est quand même pas très gentil de vis-à-vis de sa mère. Il était déjà comme ça depuis son enfance, un enfant difficile. Parce qu'à 12 ans, il a disparu. Elle est dans le temple en train de renseigner. Ah, finalement, Marie et Joseph arrivent. Est-ce que tu ne te rends pas compte comment tu es inquiet ? Femme, est-ce que tu ne vous êtes pas rendu compte que j'étais en train de renseigner ? Quand même, c'est très arrogant. Imagine que moi, j'aurais dû donner une réponse à ma mère. Femme. Quand c'est au Canaan, les noces de Canaan, gentille Marie, veut dire, aide-nous, il n'y a plus de bon vin, notre bon vin. Femme, mon heure n'est pas venue. Et sous la croix, quand les glaives ont transpercé le cœur d'une mère, il dit, femme, voici ton fils. Je trouve ça très, très, très dur. Comme j'ai dit, un auditeur inattentif, comme moi, risquerait d'interpréter mal ces paroles de Jésus et y verra une sorte d'insensibilité de Jésus à l'égard de sa mère. Comme si Jésus minimisait un compliment à sa mère. Mais cela nous offre une mise en scène très significative. C'est comme si Jésus mettait quelque part sa mère dans l'ombre, choisissant plutôt d'attirer l'attention sur tous ceux qui s'efforcent de défendre la parole de Dieu, plutôt que sur la seule personne de Marie. Pourtant, en réalité, Jésus rend ici le plus grand hommage à sa propre mère. Jésus révèle ici la véritable dimension cachée, la dimension cachée dans la maternité, qui réside dans la maternité, ici, dans la maternité de Marie. La révélation de la dimension divine de la maternité. En cette révélation, et cette révélation n'est pas sans lien avec la raison profonde pour laquelle Jésus met sa mère dans l'ombre. Examinons cette question un instant. Pour comprendre pourquoi Jésus, de cette manière voilée, formule une si grande béatitude à l'égard de sa mère, tout en laissant Marie dans une sorte d'anonymat et dans l'ombre, nous devons nous arrêter un instant sur l'expérience que nous faisons en lisant les textes sacrés, ce qu'on appelle les saintes écritures. Jésus veut clairement nous enseigner quelque chose. Lorsque nous lisons un texte sacré, nous pouvons discerner, surtout au fur et à mesure que nous nous familiarisons avec lui, ce qu'il est dit et ce qu'il n'est pas dit. Soyons honnêtes, après 35 ans qu'on s'occupe un peu en lisant l'Évangile, on connaît les choses par cœur. Je sais d'avance ce qu'il fera, ce qu'il va suivre. La lecture de tout grand texte, et en particulier de ce que nous appelons la parole de Dieu, nous confronte non seulement aux mots, mais surtout aux interstices vides, aux espaces vides qui se trouvent entre les mots et entre les lignes, au silence, aux choses qui ne sont pas dans le texte. Si nous cherchons attentivement dans les saintes Écritures qui est ce Christ ou ce qu'est ce figure du Christ, nous constatons souvent que le Christ a en réalité toujours deux visages. Il est en lui-même comme le mystère d'une grande montagne à deux versants. Un versant visible et un versant invisible. On a encore fait cette année notre promenade aux montagnes et on voit toujours la montagne d'un côté. Et si vous vous mettez en route et de l'autre côté, cette montagne peut prendre des formes complètement différentes qu'on n'avait pas vues avant. Pourtant, c'est la même montagne. Un versant visible et invisible. Un versant audible et un versant silencieux. Un versant éclairé et un versant dans l'ombre. Un versant lumineux et un versant obscur. On peut le dire plus simplement. Ce que l'Écriture ne dit pas, c'est-à-dire ce qu'elle passe sous silence, du moins en ce qui concerne la personne du Christ, nous fait sentir, pour ainsi dire, deux dimensions. Une dimension exotérique et une dimension ésotérique. Une dimension publique, disons, et une dimension mystique. Et ce qui vaut pour la personne du Christ vaut exactement la même chose pour les saintes Écritures elles-mêmes. Surtout, si nous voulons vraiment considérer ces Écritures comme saintes, comme inspirées, donc inspirantes. Ce qui reste inexprimé dans les textes, dans l'Écriture, ce que j'appelle le silence de l'Écriture, ça a un lien direct avec notre célébration liturgique, avec l'art de célébrer liturgiquement. Mais de quelle manière ? Lorsque nous commençons à soupçonner l'inéluctable fécondité cachée dans le silence de l'Écriture, cachée dans ce que l'Écriture ne dit pas, nous prenons lentement conscience de l'évidente convergence entre la dimension spirituelle profonde de notre action liturgique et le grand mystère caché dans la personne de Marie. Nous pourrions résumer cette intuition de la manière suivante. Notre tradition liturgique prie l'Écriture sainte, tout comme Marie écoute l'Écriture sainte. Notre tradition liturgique traduit sans cesse dans la prière et dans l'intériorité ce silence qui est contenu dans la parole de Dieu. Marie est le témoin par excellence de la dimension cachée de l'œuvre divine de la création. Notre vraie tradition liturgique développe la dimension mystique de la prière et du culte à partir non des textes, mais à partir du silence dans ces textes. À partir de ce qui reste inexprimé entre les mots et les lignes de la parole de Dieu. Allons plus loin. Parce que Marie, elle-même, elle est la figure par excellence qui se tient dans le silence de Dieu. Les évangiles parlent si peu de la personne de Marie qu'ils finissent par attirer notre attention sur cette position d'arrière-plan, sur ce retenu de Marie, donc sur sa qualité de son silence, de telle sorte que cette femme devient le témoin par excellence de la face cachée de Christ, le visage que nous ne connaissons pas du Christ. Elle témoigne, à travers son anonymat apparent, de la dimension cachée dans l'identité du Christ. à savoir cette identité qui s'enracine dans le grand silence sans fond du nom imprononçable, le nom révélé une fois pour toutes à Moïse, « Je suis qui suis », autrement dit, la vie. Notre vraie tradition liturgique, de manière visionnaire plutôt que spéculation théologique, beaucoup plus mystique, nous montre la Mère de Dieu comme étant la personne par excellence qui nous montre le double mystère de la personne du Christ. Tout comme l'ombre sur terre est inéluctablement liée à la manifestation de la lumière. C'est aussi pour cette raison que chacune des grandes fêtes christiques qui infléchissent et diffusent la lumière pascale de la résurrection tout au long de l'année liturgique est dédoublée d'une fête mariale. C'est donc la spécificité d'une fête mariale qu'elle nous fait entrer dans la dimension cachée, dimension céleste, du mystère de la vie. Elle nous dit ce que les écrits sacrés ne nous disent pas. Elle nous transporte au-delà de la voile de la réalité quotidienne. Elle nous place ainsi en compagnie du monde des anges. Au fond, elle nous relie à la réalité cosmique de notre vie quotidienne. Or, c'est justement la spécificité trop souvent oubliée de la prière liturgique que de nous apprendre à habiter ce silence entre les lignes, à habiter ce qui n'est pas exprimé dans l'Écriture sainte et nos textes liturgiques, dans le silence entre ces deux, dans ce vide sacré qui se trouve entre les mots et les lignes, pour nous initier progressivement à entendre l'inaudible, à voir l'invisible, à contempler la lumière qui réside dans l'ombre, à contempler la lumière qui réside derrière toute lumière, une lumière jaillissante comme une source des profondeurs de la sagesse divine. Je crois que c'est une chose très chrétienne et humaine, savoir cette capacité d'entendre l'inaudible et de voir l'invisible, etc. Il en va de même pour la fête de la Nativité de la Mère de Dieu. Les évangiles canoniques laissant de Marie complètement dans l'ombre. Ils nous disent rien, les quatre évangiles, sur les circonstances de la naissance de la Vierge. La tradition liturgique commence donc à chercher son inspiration dans un récit de l'évangile apocryphe que nous appelons le proto-évangile de Jacques. Avec ce récit, qui a la forte caractéristique de faire appel à notre imagination religieuse, notre foi peut recevoir un nouvel élan, un peu d'oxygène, comme hein, quand on tourne la terre, un stimulus éclairant à travers ce que j'appellerais cet espace silencieux entre mots et lignes de l'Écriture. Car qu'est-ce que c'est un évangile apocryphe? Au fond, c'est un évangile qui n'est pas moins vrai. Seulement, il a été laissé dans l'ombre. De nouveau, cette ombre. C'est un évangile dans l'ombre qui laisse de la place à une parole, bien sûr, mais d'une parole d'un tout autre ordre. Ce n'est pas l'aspect anecdotique du récit qui nous importe, mais sa dimension poétique, poésis dans le vrai sens. Le récit nous donne accès à une méditation plus profonde de l'écriture, une méditation que j'appelle intrascripturaire, entre les lignes, une méditation en couple avec les textes bibliques. Et vous connaissez l'histoire, hein? Elle est la suivante. Un couple marié, Joachim et Anne, est confronté au malheur, confronté à la malédiction de l'infertilité. Les deux époux souffrent donc d'une grande humiliation, car nous savons que le fait de ne pas avoir d'enfant, dont ne pas avoir de descendance, est perçu comme une honte, comme un manque d'honneur dans la tradition juive. La pensée correcte de leur religion et leur société y voyait même un signe d'être déshonoré par le Seigneur. Et pourtant, curieusement, l'Écriture sacrée les appelle les justes. Drôlement, encore une fois, que les Écritures sacrées vont dire ceux qui sont soi-disant pas dans la pensée correcte, les justes. Ces justes qui, comme Job, se voient privés de la bénédiction de Dieu et qui finalement n'ont d'autre issue que de redoubler leur obstination dans la prière, résistant ainsi avec la force de l'espérance, ou plutôt avec la force du désespoir, à tous les doutes de la vie. Et ça, nous connaissons très bien. Obsession extravagante, pourrait-on dire, devant l'incompréhensibilité de leur situation. Pourquoi j'ai cet malheur? Et un petit détail important illustre bien leur désespoir, puisque Joachim et Anne promettent au Seigneur de lui consacrer l'enfant que, dans sa bonté, il voudra bien leur accorder. C'est vraiment désespoir. Donne-moi, je te le redonne tout de suite. En d'autres termes, Joachim et Anne achèvent ici, par anticipation, le sacrifice qu'Abraham a dû accomplir à travers son fils unique, Isaac. C'était une fille de la promesse. Hein? Abraham, partez. Ma femme, vous aurez un enfant, mais non, ma femme est stérile. Non, non, vous aurez une grande descendance. Isaac est le fils de la promesse. Ici, avec Joachim et Anne, c'est la même chose qui se passe. Joachim et Anne rendent ici à Dieu la vie que Dieu leur donnera, en fait. Ils renoncent par avance, en quelque sorte, au bonheur, à la satisfaction, peut-être à l'orgueil, d'avoir une descendance personnelle devant les hommes. Au fond, ils demandent à Dieu de pouvoir porter l'enfant dans un désintéressement et un détachement radical, si radical que cela devient pure louange. Et Dieu leur accorde cette grâce par la voix de l'ange, comme il a fait pour Abraham. Une fille leur sera donnée, une vraie fille d'Israël, dit le texte, et ils vont la consacrer en offrande au temple 3 ans après sa naissance. Voilà l'histoire. Si nous écoutons attentivement ces paroles, et si nous regardons de près cette mise en scène, nous voyons que cet événement n'est pas nouveau, a déjà eu plus tôt dans l'histoire de la révélation. Peut-être ici, dans cette naissance miraculeuse, Peut-être nous pourrions y voir ou parler d'une dynamique propre qui est incrustée dans les structures même de la vie, qui est propre à la vie. Car les circonstances miraculeuses de la nativité de Marie sont en quelque sorte une décalque des autres histoires. Par exemple, l'histoire de la naissance du prophète Samuel, dont la mère s'appelait également Anne, et qui était également stérile, et qui était également désespérée. Cette approche avec l'histoire du prophète Samuel, que le récit apocryphe de la naissance de Marie, nous fait soudain entrer dans cet espace entre les lignes, comme je viens de dire. Nous connaissons l'histoire de la naissance de Samuel. Hein? Anne désespérée de nouveau, pour la même raison que Anne et Joachim. Désespérée. Donne-le-moi, et je vais te le redonner tout de suite. Le consacrer. Et elle aura un fils qu'elle donne tout de suite. Hein? Samuel est élevé au temple. Et nous allons voir que le même scénario va se passer avec Marie. Être cette capacité de comparer l'histoire de Samuel avec Anne est un petit exemple comment on peut lire entre les lignes. Au fond des espaces, ces espaces laissés ouverts par le silence des évangiles, grâce à ça, jaillissent une multitude de thèmes et des figures bibliques qui donnent une chair spirituelle au mystère de la nativité de la Mère de Dieu. Le thème de la stérilité, une stérilité miraculeusement convertie en fécondité, nous relie dans ces histoires au destin d'une vieille humanité obsolète, dans laquelle l'espérance renaît avec l'attente d'un fils de promesse. Pensons à Isaac, né du sein stérile de Sarah. Pensons aux naissances difficiles des fils du patriarche Jacob, car Rachel ne pouvait pas lui donner d'enfant. Tout comme la naissance du prophète Samuel, par qui la royauté messianique en Israël sera définitivement fondée. Tout cette série des naissances miraculeuses converge vers cet événement de la naissance de Marie. Rien de spécial au fond. C'est de cette manière que la prière liturgique nous initie à la dimension cachée de la personne du Christ. Par Marie, qui habite le silence de Dieu, nous avons accès aux espaces éternels que la sagesse divine a ouverts dans le sein même de l'humanité, dans le sein de chacun de nous. Un lien profond se laisse voir. Un lien entre deux naissances, deux sortes de naissances miraculeuses. Nous voyons une naissance d'un fils de la promesse et la naissance d'un prophète. Les deux sont toujours liés. C'est parce que un fils de la promesse, c'est-à-dire le chemin de notre avenir, a toujours besoin de la naissance d'un prophète. A besoin d'une prophétie. Nous n'aurons pas de spiritualité quand nous n'aurons pas une vision. C'est le propre prophète d'avoir une vision. C'est ça ce que je veux dire avec ce texte, que peut-être avec la fête de Noël, nous pouvons redécouvrir une dimension très sacrée de chaque homme, c'est être prophète. Surtout comme chrétiens, nous sommes des prophètes. Nous voyons ici qu'entre la naissance miraculeuse d'un fils de la promesse, commençant par Isaac et culminant ici à Noël, à Jésus, c'est aussi le fils de la promesse, et la naissance miraculeuse du prophète, préfiguré par Samuel, culminant ici à la naissance de Marie, il y a un lien inextricable. Marie incarne en effet ici l'accomplissement ultime de la figure du prophète. Elle est le prophète par excellence, puisque elle est cet être providentiel qui porte en son sein le Verbe de vie. Dans la sagesse secrètement cachée de Dieu, ces deux naissances, celle d'un fils de promesse et celle du prophète, sont inséparables. Pour que dans notre vie, nous rencontrons un fils de promesse qui doit se manifester dans le monde, il faut toujours que naisse d'abord un prophète. Pour le roi David, loin du Seigneur, ce prophète était Samuel. Cet homme qui, en se retirant aussi dans l'ombre, a transmis au jeune berger rouge l'onction royale. Pour Jésus, ce prophète était Marie, sa propre mère. C'est une réflexion, je pense, que nous devons faire. En quelle mesure nous tenons notre fibre prophétique de notre propre mère. En outre, l'appel de Marie se résume tout entier dans la parole que le petit Samuel est chargé de répondre lorsqu'il entend à nouveau son nom appelé au milieu de la nuit. Vous savez, non ? Le jeune petit Samuel, prophète, il dit, il rêve la nuit, l'ange dit « Samuel !» Lui après, « Samuel !» Troisième nuit, « Samuel !» Maintenant, ça devient assez, hein ? Il va à sa mère, Anne. Principe de la stérilité, de la vieille humanité obsolète, tournée en fertilité de la nouvelle humanité. Et sa maman dit, réponds, et dit, et parle, votre serviteur écoute. Mais Marie dit la même parole, exactement. Quand l'ange lui dit, vous avez l'enfant, quand elle dit, Marie, l'ange, elle dit la même chose. Parle, ta servante écoute. Il va de même pour Marie. Sa vie sur la terre comme au ciel, parce qu'elle n'est pas morte, hein, consiste à répéter sans cesse la même parole de Samuel, mais avec un impact inédit pour le destin de toute notre humanité. Parle, Seigneur, ta servante écoute. Et vous avez compris, il ne s'agit pas d'être femme ou homme, hein. Moi, je m'appelle, je demande aussi, Seigneur, ta servante. Moi, je suis servante, je ne suis pas servante de Dieu, je suis servante du Seigneur. Marie écoute, pourquoi ? Parce que Marie écoute à partir de cette ombre, de ce silence existentiel, avec cette capacité de pouvoir accueillir divinement la parole, de pouvoir l'héberger, et de pouvoir l'abriter. Et elle accorde ainsi à notre humanité stérile la capacité de recevoir la sagesse divine. À son exemple, cette parole divine qui est la seule semence qui fécondera la terre des hommes. La maternité de la Mère de Dieu vit dans chaque cellule de notre être. Elle vit dans notre silence intérieur. Elle vit dans notre ombre, dans ce silence de notre écoute intérieure, dont toutes nos prières, nos chants et nos liturgies ne sont que des échos. Marie est le prophète suprême de chacun de nous. Marie est toute notre humanité qui doit devenir un jour témoin de ces glorieux secrets de ce grand vivant dans la création. En méditant les paroles que l'ange dit à la femme voyante dans l'Apocalypse, ah, c'est l'ange qui parle à cette femme, je suis servante comme toi, mais avec toi et avec tes frères qui gardent le témoignage de la parole vivifiante. Ce témoignage de Jésus, en effet, est l'esprit de la prophétie que nous avons tous. Peut-être c'est mieux de m'arrêter à ce moment-là.